Studio Tamani, voici les informations en français.
18h à Koulikoro, auditeur de Studio Tamani, bonsoir. Le journal de ce jeudi 24 juillet 2025, d'abord les sommaires. Fonds de soutien patriotique sur plus de 34 milliards collectés en quelques mois, 24 milliards seront alloués à l'énergie, annoncent les autorités. Mais les avis des citoyens restent partagés sur cette décision. Inondation au Mali pour mieux anticiper les catastrophes, la Croix-Rouge malienne a lancé hier à Bamako un dialogue national pour les solutions durables. L'apprentissage se poursuit dans les écoles coraniques durant les vacances, mais les châtiments corporels encore pratiqués divisent les parents d'élèves. Le développement de ce titre, c'est tout de suite avec Idrissa Sakou, Adiratou Traoré assure la technique. Encore une fois, bonsoir. Plus de 34,7 milliards de francs CFA ont été collectés au Mali grâce au fonds de soutien patriotique mis en place il y a quelques mois. Sur cette enveloppe, 24 milliards seront consacrés au secteur de l'énergie, principalement pour l'entretien des centrales et l'achat de carburant, selon les autorités. Mais cette décision suscite des interrogations. Ne vaudrait-il pas mieux investir dans des solutions durables pour améliorer l'accès à l'électricité? Comment cet argent du contribuable peut servir de façon durable? Élément de réponse dans ce reportage signé Achata Diarra.
À Bamako, Kaye et Ségou, les avis sont partagés quant à l'utilisation des 24 milliards de francs CFA issus du Fonds de soutien patriotique. Pour certains citoyens, il est temps d'investir dans une solution durable à la crise énergétique. D'autres, en revanche, estiment que l'urgence prime et qu'il faut répondre aux besoins immédiats.
Il serait mieux d'investir cet argent-là, c'est créer une centrale solaire, acheter des panneaux pour pouvoir prendre en charge une localité ou l'entretien des barrages.
La technologie des panneaux, ce n'est pas encore maîtrisé. Ça, c'est un problème. Si on peut utiliser ça pour payer du carburant et réparer les installations hydroélectriques déjà en panne, moi, je pense que ce serait une bonne chose.
Nous avons le soleil suffisamment. Quand on va vers l'énergie solaire, c'est ce qui est mieux.
Aboubakri Maïga, spécialiste en énergie à Agétique, a un avis nuancé sur la question. Il n'exclut pas l'idée d'aller vers des solutions à long terme. Toutefois, il estime que pour l'heure, l'idéal serait d'acheter du carburant et d'entretenir les moyens que nous utilisons.
La grande partie de notre production, elle est basée sur les centrales thermiques. Nous sommes obligés, pour moi, de maintenir ces centrales-là d'abord, les entretenir et en même temps chercher à aller vers des centrales hydroélectriques ou des centrales telles que le soleil, le vent, etc. Donc, c'est des projets à long terme. Maintenant, dans l'immédiat, c'est vraiment d'entretenir ce qu'on a.
Par ailleurs, les spécialistes soulignent qu'il est essentiel pour le pays d'amorcer une transition vers les centrales hydroélectriques afin que les délais stage ne soit plus qu'un souvenir du passé pour les Maliens.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. La Cour pénale internationale a décidé de réduire d'un an la peine de prison d'Al-Hassan Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. Il est ex-membre de la police islamique lors de l'occupation de Tombouctou. La chambre d'appel de la CPI a fixé la fin de sa peine au 28 mars 2027. Reconnu coupable des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Al-Hassan bénéficie de cette réduction dans le cadre d'une procédure visant à favoriser sa resocialisation selon les juges. Autre sujet, la première édition du dialogue national sur l'action anticipatoire relative aux catastrophes naturelles de la Croix-Rouge malienne a eu lieu ce mercredi à Bamako. La rencontre avait pour but d'élaborer des techniques de prévention plus adéquates pour protéger les populations des dégâts liés à l'hivernage. On notait la présence du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et beaucoup d'autres partenaires techniques et financiers. Nuhu Maïga est le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. Il est au micro de Fatih Attara.
Il s'agit pour nous de discuter de comment est-ce que nous pouvons intégrer l'action anticipatoire dans nos actions de réponse quotidiennes. Depuis 2016, la Croix-Rouge du Mali est en train de travailler sur le développement de l'approche anticipatoire. Parce que nous nous sommes rendus compte que lorsque nous anticipons les crises, lorsque nous anticipons les aléas et les chocs, nous avons la chance de faire beaucoup plus d'impact, d'éviter la perte de vie, mais aussi d'éviter les pertes des moyens de vie. Nous avons aussi remarqué que chaque Français CFA que nous investissons dans l'anticipation, nous épargnons plus de 8 francs CFA. Cette approche est non seulement efficace et efficiente, mais aussi c'est une approche qui permet de mitiger les effets néfastes des catastrophes et des chocs.
La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, renforce les capacités de ses membres. Ceux-ci bénéficient depuis hier d'une formation sur les outils et les mécanismes de suivi des juridictions et des lieux de privation de liberté. La session est organisée par le programme LID de IDLU. Elle vise à outiller les participants sur les techniques de monitoring des procès et des lieux de privation de liberté, mais aussi les édifier sur les nouvelles procédures judiciaires au Mali. Mamadou Sama Sekou était à l'ouverture de l'atelier.
Fakara Fainke et Mme Boire Bintoufoune Samake sont respectivement présidents de la sous-commission prévention des tortures, des traitements inhumains dégradants et de la sous-commission protection. Ils estiment que cette formation est importante à plusieurs titres.
Nous avons intérêt à renforcer nos capacités parce que chaque instant, on est obligé d'aller visiter les lieux de privation comme la police, la gendarmerie, les prisons.
Des individus peuvent venir saisir la CNDH pour dire qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable. Et nous, nous allons voir est-ce que les principes qui ont été prônés par le nouveau code pénal ont été respectés tout au long de la procédure.
Principale organisation de défense des droits de l'homme au Mali, la CNDH veille au respect des droits humains dans le pays. Pour son président, Dr Al-Qadir Diarra, la question des droits de l'homme doit être l'affaire de tous.
La question de défense des droits de l'homme n'est pas une question spécifique au commissaire. Tout le monde est dans la question de défense. C'est pourquoi nous on dit dans le slogan « La protection des droits de l'homme est une responsabilité partagée. Nul n'est à l'abri de la violation de ses droits. » Et ça, c'est clair. C'est pas seulement au Mali, c'est dans tous les pays. Donc, véritablement, il faut que ça soit compris dans ce sens et que nous puissions mener des actions pour faire en sorte que notre pays puisse quitter cette situation difficile.
Il faut signaler qu'à cette formation de 2 jours prennent part également des participants venus de l'intérieur du pays.
18h06 à Massina, où la semaine d'intensification des activités de nutrition Siane a démarré ce mercredi 23 juillet 2025 dans le district sanitaire. Selon les autorités sanitaires, la campagne cible les enfants de 6 à 59 mois pour les activités nutritionnelles. Par ailleurs, une distribution d'azithromycine, un antibiotique destiné à lutter contre les infections, est prévue pour les enfants de 1 à 59 mois. La campagne se poursuit jusqu'au 27 juillet prochain.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Et maintenant, notre dossier de la semaine. Pendant les vacances scolaires, nombreux sont les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles coraniques. L'objectif est de leur apprendre le Coran, mais aussi de leur inculquer les valeurs de l'islam. Dans ces lieux, les techniques d'apprentissage basées notamment sur le châtiment corporel diffèrent de celles de l'enseignement classique. Selon les maîtres coraniques, le fouet vise à dissuader et inciter les enfants à suivre les cours. Quant aux parents, ils restent pas partagé sur l'usage du fouet pendant ses cours coraniques. Un dossier signé Maimouna Fakaba Sissoko.
Dans cette classe, assise à même le sol, des enfants récitant le Coran. Des élèves pour la plupart, ces enfants sont envoyés chaque année pendant les vacances scolaires pour apprendre des versets du livre saint. Mais dans ces écoles, l'usage du fouet est encore de rigueur. Ce maître coranique qui a gardé l'anonymat explique les raisons.
Certains enfants viennent ici. Ils sont intelligents et aiment étudier. Mais il y a d'autres pour qu'ils les apprennent. Il faut les frapper.
Pour les parents, inscrire les enfants à ces cours est une façon de les transmettre des valeurs religieuses. Si beaucoup reconnaissent que la discipline est nécessaire, certains estiment aussi que les maîtres coraniques vont parfois trop loin.
Tout le monde aimerait que son enfant étudie, mais le frapper de telle sorte, c'est ce qui n'est pas bien. Parce qu'après, ce sont les parents qui vont ramasser les pots cassés.
Il est parti pour étudier. Si tu vois que le maître coranique le frappe, c'est parce qu'il n'a pas été sage.
Chaque enfant a sa façon d'être éduqué. Il y a certains, quand ils les chouchoutent, ils apprennent. Il y en a d'autres également, quand tu ne les frappes pas, ils ne vont pas apprendre. Donc je ne vois pas de mal à ce qu'on frappe les enfants.
Se retrouver face à un maître avec le fouet à la main, après avoir passé 9 mois dans une salle où le châtiment corporel est interdit. Cela est-il sans conséquence pour l'enfant? Le pédagogue Seydou Loa répond par la négative. Selon lui, cette forme d'apprentissage peut avoir des répercussions sur l'enfant comme le dégoût
dégoût d'apprentissage.
Concernant le châtiment corporel que les enfants subissent durant ces cours d'école coranique-là, ce n'est pas une bonne chose du tout. Ça peut avoir des impacts négatifs sur l'enfant. Déjà, ça peut le blesser. Ça peut aussi donner à l'enfant le dégoût de l'apprentissage. Ça peut faire en sorte que l'enfant n'apprenne pas aussi. Donc, le châtiment corporel est une mauvaise chose en réalité.
Les cours coraniques sont une tradition bien ancrée dans notre société et participent à l'éducation religieuse des enfants. Toutefois, il est nécessaire de veiller à la façon de les dispenser afin d'éviter des actes de violence pendant ces cours.
Page sport, la sélection malienne est désormais au complet pour l'Afro-Basket féminin 2025. Le sélectionneur national Oumarou Sidi Yaya Maïga a dévoilé ce mercredi la liste des 12 joueuses retenues pour représenter le Mali à Abidjan en Côte d'Ivoire. Logées dans le groupe B, les Aigles d'Âme affrontent le Soudan du Sud et le Cameroun. La compétition se déroulera du 26 juillet au 3 août prochain. Voilà, faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56 à Sidi Tamani. Nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Après ce journal, vous aurez votre débat, le grand dialogue en rediffusion. Mais avant, suivons ensemble le magazine Tous les enfants du Mali. La plupart des parents vivent cette réalité au quotidien. Il s'agit bien sûr des caprices des enfants. Elles se manifestent différemment. Certains par des réclamations tous azimuts, d'autres par le refus pur et simple. Pourtant, des psychologues affirment que ces attitudes cachent des objectifs. Se faire entendre ou attirer l'attention. Cependant, tous les parents ne réagissent pas de la même manière face aux enfants capricieux. Alors, comment gérer ces situations? Faut-il céder à leurs demandes? Comment corriger ces comportements? Éléments de réponse dans ce numéro signé Juliette Koulibaly.
Selon les psychologues, les caprices font partie des étapes normales de développement de l'enfant. À travers eux, ils expriment souvent un besoin d'attachement, d'attention et d'affection. Ces comportements permettent déjà d'entrevoir certains traits de l'adulte qu'il deviendra demain. Drissa Traoré, psychologue et agent de santé mentale.
L'enfant a un besoin brûlant de l'affection de la part des parents. Ce désir-là va s'exprimer par des caprices. Même les cris que les enfants font à ce stade-là, ce sont des cris d'alerte. L'enfant dit non, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Mais il se peut qu'il y a une petite chose sur l'habit qui dérange l'enfant.
Les mères qui passent généralement plus de temps avec leurs enfants adoptent des approches variées face aux caprices. Si certaines privilégient la punition, voire la fessée, d'autres préfèrent utiliser des méthodes plus douces et dissuasives.
Ce n'est pas facile de gérer les caprices des enfants. Quand les miens font leur crise, je ne dis rien. Lorsqu'ils se lassent, ils s'arrêtent d'eux-mêmes.
Certains enfants sont tellement capricieux qu'ils n'écoutent personne. Dans ces cas-là, il vaut mieux se taire.
Si tu ne fais pas attention, tu risques de les frapper sous le coup de la colère.
Il va céder à Dame.
Je ne sais pas quoi. Elle demande à son père cède.
De leur côté, les pères se montrent souvent plus fermes et affirment ne pas céder aux caprices. Interrogés à Bamako, Mopti et Ségou, plusieurs d'entre eux disent privilégier la communication plutôt que le recours au châtiment corporel.
Je ne vais pas le frapper, je lui parle tranquillement. J'essaie de lui faire comprendre que non, ce qu'il fait n'est pas bien.
Si cette caprice est due au fait qu'ils sont en train de réclamer quelque chose, ma réaction, ce n'est pas de les acheter tout de suite ce qu'ils demandent.
On ne doit pas fermer les yeux au risque qu'il ne devienne un adulte irresponsable. Quand un enfant veut m'imposer son choix, il ne l'aura pas.
Le regard des traditionnalistes sur les enfants capricieux est tout autre. Kouman Koumaré, traditionnaliste à Koulikoro, déplore ce qu'il considère comme une trop grande tolérance des parents d'aujourd'hui face aux caprices. Pour lui, ces comportements doivent être corrigés progressivement afin de former un adulte équilibré et responsable.
Bon, dans l'ancien temps, les parents les gérer avec tact. On ne serait pas à toutes les caprices des enfants. Ce qui était bon pour l'enfant, l'enfant était orienté. Le papa ou la maman était capable de lui raisonner. C'est une sorte de folie que l'enfant développe. On peut dire que le parent à qui on faille à l'air de voir tout ce qui n'est pas bon pour l'enfant et que si l'enfant se réussit, dans la plupart des cas, les parents cèdent facilement. L'enfant, il est immature. Ça fait partie des étapes de développement de l'enfant. Donc, le parent de l'exploiter à bon escient pour lui.
Les psychologues rappellent que les sanctions doivent être proportionnelles à l'acte commis. L'objectif n'est pas de punir systématiquement, mais d'aider l'enfant à comprendre les règles et à respecter les limites. Ambakri Tembeli, psychologue.
Il faudra souvent laisser l'enfant gérer, pleurer, crier, sursauter. Inutile d'essayer d'expliquer à l'enfant à ce moment-ci, parce qu'il ne va pas écouter. Quand il finira maintenant l'expliquer, par exemple, tout sur l'exemple typique d'un enfant où qu'on n'a pas appris ou bien qu'on n'a pas aidé à gérer ses caprices, ce sont des personnes, par exemple, qui sont allergiques aux critiques. Mais au fait, même s'ils ne parlent pas, mais les critiques peuvent leur donner des conséquences psychologiques, voire psychosomatiques.
Nos spécialistes en santé comportementale précisent que si les caprices persistent pendant plusieurs mois, il est conseillé de consulter un spécialiste. Cela permet de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un trouble du comportement nécessitant une prise en charge spécifique.